Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans Sporama, un spécial Cannes 2023. Eric Manelakiza avec vous au micro. La Cannes Côte d'Ivoire 2023 a débuté samedi à Abidjan avec la victoire de l'équipe hôte qui a remporté son match inaugural contre la Guinée-Bissau sur un score de 2-0. Après cette rencontre du groupe A, les autres groupes poursuivent leur match et mercredi, toutes les 24 équipes en compétition auront disputé leur premier match. Dans cette édition de Sporama, nous revenons d'abord sur l'organisation et les matchs déjà joués. Notre envoyé spécial et nos consultants seront avec nous pour commenter et analyser les résultats, les enjeux et la qualité des équipes. Yacouba Ouédraogo se trouve à Abidjan, c'est notre envoyé spécial. Bonsoir Yacouba. Amine Birouk est en direct depuis San Pedro, il est en Côte d'Ivoire. Amine, bonsoir également. Nous aurons Élisée Ongpatine, Jules Valentin Ngwe et Amédine Sy qui sera également avec nous. Yacouba, une petite question. Ce match entre le Cameroun et la Guinée, un score nul, la Guinée a tenu jusqu'au bout. Yacouba, vous êtes là, vous nous entendez? Yacouba, un problème de connexion téléphonique. On va essayer de le joindre de nouveau. Amine, tu as suivi ce match qui vient de se terminer à l'instant, il y a 2 minutes, je crois. C'était un match fou.
Un match très équilibré où les Guinéens ont mené au score avec l'ouverture de Mohamed Bayo. On a vu une très belle équipe de Guinée en première mi-temps et on donnait l'impression qu'elle pouvait maîtriser son sujet face à des Camerounais qui étaient quelque peu perdus. Il est vrai que la concentration de l'équipe du Cameroun a été mouvementée avec l'arrivée tardive d'André Onana. Il y a eu un tournant et le tournant c'est l'expulsion à la fin de la première mi-temps de François Kamano, le capitaine du Sélection nationale. Et puis en deuxième mi-temps on a vu une équipe camerounaise plus entreprenante, plus mobile et plus décidée à revenir dans la partie, ce qu'elle a réussi à obtenir. Voilà, c'est un résultat équitable qui maintient les chances de qualification des deux équipes et les laisse en embuscade derrière le Sénégal qui a dominé son sujet face à la Gambie.
Merci Amine. Nous avons rétabli le contact avec notre envoyé spécial Yacouba Ouédraogo. Yacouba, comment tu évalues la qualité de l'organisation et des infrastructures de cette Cannes Côte d'Ivoire 2023 après le coup d'envoi réussi?
Écoutez Eric, bonsoir à vous et bonsoir à tous. Et désolé pour la qualité de ma voix parce que là, j'ai la voix très enrouée depuis samedi justement au coup d'envoi de cette Cannes Côte d'Ivoire 2023. En termes d'infrastructures, il faut le reconnaître, les Ivoiriens ont mis le paquet. Les infrastructures sont correctes, tout est correct. Par contre, par rapport à l'organisation, écoutez, quelques quand même ratés hein, de côté de la CAF, il faut le reconnaître également, parce que lors de la conférence de presse, par exemple, d'avant-match de la Côte d'Ivoire, on n'avait pas de son dans la salle de presse. Et puis, il a fallu que l'entraîneur de la Guinée vienne à son tour pour que le son soit rétabli. Donc, il y a quelques petits ratés. Là. Il y a beaucoup de journalistes aussi qui n'ont pas eu accès au stade d'EBMP pour le match d'ouverture, comme quoi ils ont reçu des emails de rejet de leur demande d'accès, bien sûr, des tickets de journalistes pour accéder au stade. Donc, il y a quelques petits ratés là. Mais en dehors de cela, il faut reconnaître que la compétition se passe bien. Et vous voyez également, Amine le disait, des rencontres assez serrées, très serrées. Il n'y a pas de favoris, je le dis, et je le répète, il n'y a pas de favoris. Il n'y a que des équipes qui veulent gagner, qui vont s'imposer.
Yacouba, comment tu expliques ce paradoxe du manque de billets malgré le manque d'affluence dans les stades?
Il n'y a pas d'explication possible. La CAF a sorti sa documente récemment, aujourd'hui même, pour essayer de justifier un peu, parlant des questions de sécurité haute. Vous le savez, c'est seulement près de 37 000 personnes qui étaient au stade d'EBMP, ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, donc pour le match d'ouverture. Pour un stade qui a une capacité de 60 000, on ne dira pas que les plus de 10 000, autres, les 13 000, par exemple, autres places restantes ont été sciemment laissées vides pour des raisons de sécurité, je n'y crois pas du tout. Mais la preuve, le lendemain, dans tous les stades, pour la rencontre entre la pour la rencontre, par exemple, du Cap-Vert et le Ghana, même malgré le fait que le Ghana a une forte communauté en Côte d'Ivoire et ici à Abidjan particulièrement, il n'y avait pas plus de 1500 personnes au stade. Et donc, c'est dire que je pense que côté organisation, peut-être que ce n'est pas ça relève de la CAN ou bien de la CAF, pardon, ou bien du COCAN, mais il faudrait que les Ivoiriens se mobilisent pour remplir les stades parce qu'il n'y a pas que les éléphants qui sont en compétition, il y a toute l'Afrique qui joue cette CAN-là.
Est-ce qu'au niveau du public, on sent cette ferveur de la CAN?
Oui, on sent cette ferveur de la CAN parce qu'il y a des fan zones partout, il y a des villages CAN un peu partout, dans les maquis, dans les maquis, dans les bois de nuit, on ne parle que de la CAN. Dans les marchés, on était ce matin au marché d'Adjamé, un marché très populaire, d'un quartier très populaire également, ici en Côte d'Ivoire. Les gens ne parlaient que de CAN, mais la question qu'on leur a posée, c'est pourquoi vous ne vous rendez pas au stade. D'aucuns disent qu'ils ne se rendent pas au stade justement parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter les tickets. Et d'autres estiment que l'ancienne mesure, il devient ancienne parce que la mesure a été levée. Le fait que la Fédération Ivoirienne de football exigeait que les supporters portent des maillots originaux pour se rendre au stade, cela a découragé beaucoup parce qu'un maillot original ici, ça coûte autour de 58 000 francs CFA. Ce n'est pas une bourse, bien sûr, ce n'est pas à la portée de tous, il faut le dire.
Merci Yacouba, je dois te libérer parce que tu as d'autres interviews à faire et d'autres éléments à nous envoyer. Merci pour toutes ces précisions. Nous allons rester avec nos consultants sportifs, Amine Birouk qui est déjà là, Élisée Ongpatine est là, Medine Sy est déjà là, Jules Valentin Ngwe. Amine, je reviens vers toi. En quoi penses-tu que cette édition se distingue des précédentes?
Bah, tout d'abord, parce que dès la première journée, on a vu quelques épouvantails de la compétition dans la poussière ou souffrir. Chose, si on devait comparer aujourd'hui deux compétitions qui se déroulent en parallèle, la CAN et la Coupe d'Asie, la hiérarchie respectée. Là, elle est un peu davantage bousculée, il y a plus d'équilibre. Et on l'a vu dès la journée du dimanche avec le match nul du Nigeria face à la Guinée équatoriale, les difficultés de l'Égypte face au Mozambique, les Égyptiens ont failli subir une déconvenue inattendue, et puis le coup de tonnerre des Cap-Verdiens face au Ghana, avec une belle victoire de 2-1. Donc pour l'instant, à l'exception de la Côte d'Ivoire qui a tenu son rang et du Sénégal qui a été impressionnant face à la Gambie, on a des rencontres très équilibrées, on a un plateau de très grande qualité à la CAN, et on va voir maintenant dans quelle mesure d'autres favoris vont être mis en difficulté ou est-ce qu'ils tireront les conséquences et les leçons des matchs de la journée de dimanche. Je pense naturellement à l'Algérie qui va jouer dans quelques minutes face à l'Angola. On rappelle que l'Angola a sur une série d'invincibilité avec 4 matchs nuls à 0-0, donc c'est du solide derrière. Je pense au Mali et à la Tunisie qui vont jouer demain. Et je pense davantage à mon pays qui est un peu dans la proie du chassé, dans la peau de la proie, dans la mesure où sa demi-finale de Coupe du Monde en fait un favori incontournable pour la compétition.
Ton pays, le Maroc, Amine Birouk, je dois dire que tu viens de répondre à toutes les questions que j'ai prévues, mais on va essayer de les poser autrement. Élisée Ongpatine, la Côte d'Ivoire joue devant son public en remportant ce match inaugural. Penses-tu que la prestation des éléphants a vraiment convaincu en tant que favorite? L'équipe favorite
En tant que favori sur cette rencontre, puisque pour toute la compétition, on connaît les premiers favoris, on ne peut pas ignorer quand même le Sénégal, l'Égypte et le Maroc. Maintenant, sur cette rencontre, la Côte d'Ivoire a pu tenir son rang face à une équipe bissau-guinéenne qui n'était pas quand même au mieux devant cette sélection ivoirienne. Le plus important, ce sont les 3 points, puisque quand il s'agit d'un match inaugural, on sait comment c'est souvent difficile. On l'a vu avec l'Égypte, tout comme le Ghana ou encore dans un instant même le Cameroun. Donc il faudra éviter ces genres de pièges et la Côte d'Ivoire l'a évité à merveille avec pas un jeu très flamboyant, mais c'est le début et on peut s'attendre à ces genres de situations dès l'entame de la compétition. En tout cas, lors de la deuxième journée, on verra encore ce que le pays hôte, la Côte d'Ivoire, va nous présenter comme jeu.
Amédine Sy, la victoire des Lions de la Teranga tenant du titre avec un score de 3-0 contre la Gambie confirme-t-elle selon toi son statut de favori pour se succéder sur le toit d'Afrique?
Tout à fait Eric, le Sénégal est bien parti pour ce qu'on appelle au Sénégal l'opération conservation du titre puisque les Lions ont entamé quand même cette compétition de fort belle manière. puisqu'ils ont laminé la Gambie sous le score de 3-0. Ce n'était pas du tout évident, parce que comme vous le savez, la Gambie, c'est le voisin, c'est des cousins. Nous les considérons comme nos cousins. Nos matchs ont été très difficiles, mais pour ce matin, il faut dire que le Sénégal a assuré et assuré. C'est pourquoi même le Sénégal est leader du groupe 1, c'est le groupe de la mort, le groupe où le Sénégal se trouve en compagnie de la Gambie, mais également du Cameroun et de la Guinée. Pour revenir au match, il faut dire que ça a été un peu facile, puisque ce sont les Lions qui l'ont rendu facile, surtout Pape Gueye qui a inscrit un but très matinal à la 4e minute. Ensuite, il y a eu le doublé de Lamine Camara qui a été élu homme du match. Il a marqué à la 52e minute avant de revenir à la 86e minute pour marquer un chef-d'œuvre, un but extraordinaire. Et ces deux joueurs, hein, il faut le dire, ils sont très jeunes. Pape Gueye qui revient de suspension, 3 mois de suspension par le tribunal arbitral du sport sur un conflit de transfert. Lorsqu'il est allé à Marseille, il devait aller à Watford, il n'a pas respecté son contrat, puis il a été suspendu. Donc c'est une belle récompense pour ce jeune milieu de terrain. Pour Lamine Camara également, il faut le dire, qui a été élu meilleur jeune hein, par la Confédération africaine de football, qui a été titularisé parce qu'il profite quand même de l'absence des cadres comme Garna Gueye qui revient de blessure, Matar Sarr qui est blessé, Nampalis Mendy, Kouyaté, donc titularisé pour la première fois en Coupe d'Afrique. Il réussit un doublé pour un coup d'essai, il a réussi un coup de maître. Mais il faut également dire que c'est Aliou Cissé qui a réussi son pari. Parce qu'aujourd'hui, il a aligné un 3-4-3 avec en défense Koulibaly, Niakate et Abdou Diallo. Mais ces joueurs ont assuré de même que les pistons Crépin et Jacobs. Et ensuite, le milieu de terrain et l'attaque, parce que c'est deux joueurs du milieu qui ont marqué les 3 buts. Les attaquants se sont débrouillés pas mal, comme Sadio Mané qui a servi quand même Pape Gueye sur son premier but. En tout cas, pour résumer, je dirais que le Sénégal est très bien parti pour conserver son titre, mais ce n'est qu'un match. Donc, il faut attendre quand même la suite de la compétition, surtout vendredi prochain, où le Sénégal va affronter le Cameroun. Ce sera un duel de Lyon, Eric.
Et on a vu un Sadio Mané qui était plutôt discret. Hein?
Yeah, il a été discret, il faut le dire. Mais comme on a l'habitude de le dire, les grands joueurs, ils attendent les grands matchs quand même pour se faire voir. Mais malgré qu'il a été discret, c'est le premier but. C'est lui qui a servi sur un plateau au d'or de Pape Gueye. Donc on va attendre encore pour voir ce que cela va donner. Mais on retient l'essentiel pour l'équipe du Sénégal. C'est la première équipe depuis le début de la compétition qui a gagné largement 3-0. 3 buts marqués, 0 buts encaissés. Je pense que c'est une bonne chose, Eric.
Jules, comment tu évalues les implications de la défaite du Ghana face au Cap-Vert dans le groupe B, surtout avec de prochains matchs cruciaux contre l'Égypte et le Mozambique qui ont fait match nul?
Jules, il faut... Oui, bien sûr. J'ai compris la question, Eric. Donc, mais je dirais d'abord qu'il faudrait restituer un peu les choses. Cette Coupe des Nations que nous avons a apporté certaines nouveautés. D'abord, il faut savoir qu'il y a un nivellement complet, pratiquement par le haut de notre football. Et avec le phénomène des binationaux, les pays lusophones se sont mis en phase et vous savez que leur vivier naturel, c'est le Brésil et c'est pas n'importe quoi. Bon, alors, donc, on voit là la qualité de leur jeu, la qualité collective, qu'il y a quelque chose de brésilien. Et donc, il faudra s'attendre à ce que nous on appelle des surprises, mais je dis, c'est plutôt le nivellement qui provoque, disons que cette métamorphose. Et donc, les premières victimes, moralement, ont été l'Égypte et le Ghana, mais d'autres peuvent encore souffrir et rien n'est joué jusqu'à la dernière journée de la première phase. On ne saura pas quels sont les gens qui continuent la suite de la lutte pour la conquête du titre, peut-être en dehors de ceux qui ont franchement gagné les matchs, les favoris comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire.
Amine, quelle surprise ou déception as-tu observé jusqu'à présent en termes de qualité des joueurs ou du jeu ?
En termes de qualité de jeu, on ne peut pas dire qu'on a eu droit à des rencontres d'un très très grand niveau. Hein. Surtout le match d'ouverture, moi j'étais déçu par la proposition de la Côte d'Ivoire, parce que je m'attendais à voir un jeu beaucoup plus flamboyant. Maintenant, bah, l'essentiel a été réalisé par les éléphants. Par contre, pour moi, l'équipe du Ghana a véritablement déçu, parce qu'elle n'a pas été efficace dans les deux surfaces face au Cap-Vert. Ils ont raté beaucoup d'occasions sur le plan offensif, ils auraient pu gagner la rencontre avec un peu plus de précision dans le dernier geste. Et puis derrière, ils ont laissé des boulevards et offert des possibilités à cette équipe du Cap-Vert qui a joué sans complexe. Moi, j'ai l'impression que le bloc le plus solide depuis le début de la compétition, c'est celui du Sénégal. Il n'a montré aucune faille lors de ce match face à la Gambie. Sadio Mané s'est mis au service du collectif. Il y a des jeunes qui arrivent, avec notamment Lamine Camara, qui est une petite merveille. Et on va voir dans quelle mesure le Sénégal va maintenir ce standard de qualité lors des deux prochains matchs, qui ne seront pas du tout faciles face au Cameroun et à la Guinée. Donc, a priori, il y a des déceptions sur le plan collectif, celui de la Côte d'Ivoire qui aurait pu proposer l'avantage. C'est aussi le manque d'efficacité du Ghana. Et puis, de l'autre côté, il y a les certitudes, le Sénégal, et les révélations type Cap-Vert. L'Égypte a cherché à être beaucoup plus joueuse que d'habitude. Elle a marqué du but, mais elle a aussi laissé l'opportunité au Mozambique de marquer deux autres aussi. Donc peut-être que les Égyptiens devraient retrouver les fondamentaux de leur jeu, celui d'une équipe solide, difficile à bouger. C'est un peu la recette qui a permis au Pharaon de gagner cette fois la CAN.
Élisée, la même question ?
Oui, il faut le dire, hein, puisque comme je l'ai dit en temps, il faut souvent bien négocier hein, les premiers matchs de poule, puisque ça peut vous mettre en difficulté. Et aujourd'hui, on voit que le Cameroun est en difficulté, puisque son prochain match ce sera face au Sénégal. Le Ghana aussi s'est mis seul en difficulté, hein, puisque pour son second rendez-vous, ce sera face à l'Égypte, vous imaginez. Mais la bonne nouvelle est qu'il y aura les meilleurs troisièmes, hein, les quatre meilleurs troisièmes qui seront et qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc, comme ça, là, certains pays peuvent quand même bien négocier leur seconde rencontre. Pourquoi pas aller chercher une victoire lors de leur dernière rencontre hein, pour pouvoir assurer leur qualification pour les huitièmes de finale. Mais pour le moment, comme l'a dit Amine Birouk, hein, c'est véritablement le Ghana et le Cameroun qui ont déçu. C'est vrai que l'Égypte aussi a déçu, mais quand même, dans le jeu, on sent que quelque chose a été produit. Sinon, le Cameroun a totalement déçu, le Cameroun a même plus déçu hein, que le Ghana, puisque le Ghana, lui, s'est tout au moins procuré des occasions. Il n'y a pas eu la concrétisation. Sinon, le Cameroun, franchement, il faudra faire mieux hein, face à cette équipe sénégalaise qui a montré une très belle chose, hein, surtout défensivement. Cette équipe est coriace et au niveau de l'attaque, ça va très vite. Donc, attention au second match du Cameroun. Et là, on va assister à de très belles rencontres, hein, surtout lors de la seconde journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire.
Dans l'absence de Aboubakar a fait défaut à cette équipe camerounaise.
Et bien évidemment, puisque le Cameroun a un jeu qu'on connaît tous, hein, puisque ça s'appuie souvent hein, sur Vincent Aboubakar, qui est un taulier de l'attaque camerounaise. C'est quelqu'un qui joue bien dos à la défense. Il est très adroit devant les buts. Il est aussi rapide en attaque. Hein, donc, sur des rares occasions, il peut les transformer. On l'a vu lors du dernier sacre hein, du côté du Gabon, où sur l'une des rares occasions, il a marqué le but victorieux, ce qui a permis au Cameroun de battre l'Égypte en finale. Donc, vous voyez, Aboubakar Vincent, c'est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la CAN. Il aimerait même présent afin de battre le record de Samuel Eto'o, malheureusement pour lui. Donc, aujourd'hui, on a senti sur cette rencontre, en tout cas sur cette rencontre, que Aboubakar Vincent a manqué réellement à l'attaque camerounaise. Donc, l'ancien attaquant de Lyon n'a pas pu peser, n'a pas pu faire grand-chose. Et l'absence aussi de Massim Choupo-Moting a été visible dans cette attaque. Donc, Vincent Aboubakar a réellement manqué à cette attaque du Cameroun, Eric.
Jules, la question suivante m'a été inspirée par ton coup de sifflet. Penses-tu que l'utilisation de la VAR a eu un impact positif sur le déroulement des matchs disputés ou as-tu des réserves à ce sujet ? On a vu le capitaine guinéen qui a été sanctionné de carton rouge après l'intervention de la VAR.
Oui, mais la VAR a un apport très positif. Vous avez vu que c'est à partir de la cabine de contrôle de l'arbitrage et qu'on a averti l'arbitre qu'il y avait quelque chose. Vous savez, le talon d'Achille, c'est une des blessures les plus graves que peut avoir un footballeur. Ça a été, et je vois, dans un match précédent, je crois que ça doit être le match du Sénégal, dont le carton rouge venait également d'une attaque sur le tendon d'Achille. Et s'il y a eu deux coups portés sur la même action à cet endroit, donc c'était vraiment indiscutable. La VAR a servi. Sans la VAR, on n'aurait pas pu voir cela. Or, les cartons sont aussi dans la stratégie de la rencontre. Ça permet d'exploiter les temps d'extrait de match. Et c'est ce que les équipes expérimentées utilisent pour faire la différence.
Jude, quelles attentes avez-vous pour les rencontres à venir dans les autres groupes avant que toutes les 24 équipes ne disputent leur premier match mercredi, rapidement, en 45 secondes?
Oui, mais les supposés favoris, c'est-à-dire les prétendants, tirent les leçons de ce qui vient de se passer. Et la plupart de ces équipes sont des équipes de jubilés, c'est-à-dire les joueurs se retrouvent de très haut niveau, mais se retrouvent en très peu de temps pour faire des rencontres. Donc les rencontres du premier tour sont leurs rencontres les plus dangereuses, où elles cherchent à fluidifier leur jeu. Et c'est là où elles peuvent être vulnérables. On a vu l'Algérie au Cameroun, à la campagne camerounaise, on a vu ce qui s'est passé. Donc, je crois qu'il faut attendre pour voir.
Élisée, la même question en 45 secondes.
Oui, allô Eric ?
Oui. Quelles attentes avez-vous pour les rencontres à venir dans les autres groupes ?
D'abord, c'est l'Algérie qui doit beaucoup se méfier de l'Angola et cette équipe angolaise qui se base désormais sur les joueurs qui évoluent dans ces deux grands clubs, le Primeiro do Agosto et le Petro Atlético de Luanda. Donc, c'est du solide là-bas aussi puisque c'est un football très physique. On les a vus lors des dernières compétitions des clubs au niveau du continent, que ce soit la Ligue des Champions ou encore la Super Ligue africaine, cette nouvelle compétition. Donc, l'Algérie doit beaucoup se méfier de cette sélection angolaise, même si elle est vraiment ambitieuse. Et quand on entend un peu son sélectionneur, l'Algérie est venue remporter la compétition. Donc ce ne sera pas facile. Et puis, il faut dire aussi que le Mali aussi doit éviter le piège de l'Afrique du Sud qui pratique un football très technique.
Amédine, en 45 secondes.
Oui, moi aussi, j'attends surtout le Maroc, parce que le Maroc, après sa belle prestation lors de la dernière Coupe du Monde, demi-finale, il fallait le faire, ils l'ont fait, quoi. Les Marocains l'ont fait, pour la première fois, une équipe africaine est allée en demi-finale. Donc, on attend avec impatience le Maroc, mais également, moi, j'attends le Burkina, qui a été quand même la surprise de la dernière édition au Cameroun. Le Burkina avait vraiment séduit tout le monde. Donc, moi, j'attends ces deux équipes, puisque le Burkina fera face à la Mauritanie. J'attends avec impatience le Maroc qui rencontre la Tanzanie, mais également le Burkina qui rencontre la Mauritanie.
Merci. 15 secondes pour la question suivante. Amine, avez-vous identifié un but exceptionnel lors de ces rencontres? Quel est le joueur qui a brillé selon vous et le gardien qui s'est distingué? En 15 secondes.
Moi, je mettrai en avant le petit Lamine Camara parce que c'est du but qui semble une très belle facture. C'est la révélation de l'année. C'est le prix meilleur jeune espoir de la CAN ou de la CAF. Il vient de confirmer tout le bien que l'on pense de lui. Et puis, gardien, pour l'instant, il n'y a pas de gardien qui soit sorti du lot. Donc, on va attendre la suite de la compétition pour pouvoir déterminer quel serait le meilleur keeper de la CAN.
Jules, en 15 secondes, le temps file.
Oui, pour moi, j'ai un gardien de but. Égyptien avait ses envolées extraordinaires, incomparablement, vraiment particulièrement marquées. Je crois qu'il risque de peser dans la balance à ce moment où l'Égypte cherchera un résultat important.
Amédine, rapidement, 10 secondes.
Pour moi, il y a Lamine Camara, comme Amine l'a dit, mais pour les gardiens, je prends les deux qui ont réalisé des clean sheets, celui du Sénégal, Mendy. Il n'a pas pris de but, et celui de la Côte d'Ivoire, enfin, également, il n'a pas pris de but.
Élisée, 5 secondes.
Bon, naturellement, Lamine Camara hein, qui a fait un match c'est extraordinaire cet après-midi. On attend la suite, hein, la seconde journée pour voir réellement sur les autres joueurs.
Merci. Eric Manilakiza a été avec vous à la présentation. Georges et Léonard Sagnon a assuré la réalisation et la mise en onde. Merci à notre envoyé spécial et à tous nos consultants sportifs. C'était Sporama sur la Cannes.